RCF.
Comment sortir du jugement que nous portons sur les autres? C'est le thème de notre série cette semaine. Nous retrouvons Lita Basset. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Moi, je ne juge personne », l'évangile au-delà de la morale, un livre réédité en livre de poche aux éditions Albin Michel. Hier, nous avons relu avec vous le très bel épisode de « La femme adultère ». Nous avons vu que Jésus, parce qu'il ne se laisse pas submerger par la peur, ne juge pas cette femme. Alors pourquoi ne s'enfonce-t-il pas dans la peur? Comme nous avons vu en début de semaine que, à cause de nos blessures, nous avions peur et nous pouvions juger.
Il me semble que ce qui va faire que nous pourrons à la fois exorciser la peur et la réaction par le jugement ou la condamnation de l'autre, c'est au fond de se recentrer, de retrouver son unité intérieure. Parce que la peur nous divise, intérieurement, je veux dire. Nous ne sommes plus vraiment nous-mêmes quand nous sommes dans la peur. Il y a comme une sorte de force qui nous aliène. Et il me semble que dans ce passage, Jésus, quand il va dans ce silence et qu'il écrit sur le sol, c'est comme s'il entendait quelque chose de très, très lointain qui lui vient, de l'ordre de l'unité de sa personne. Parce que bon, on sait très bien qu'il était en lien profond avec Dieu en permanence. Enfin, en permanence là, peut-être plus que jamais dans ce moment critique. Et c'est comme s'il se recentrait sur ce Dieu un dont la Bible parle, et en particulier le Deutéronome, enfin la Bible hébraïque insiste beaucoup sur le fait que Dieu est un, qu'il n'y a pas de division en Dieu.
L'unité de Dieu.
Voilà, il n'y a pas de division en Dieu, et il nous est même demandé, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton psychisme, ta psyché, et de toute ta force, de tout ton être. Et c'est quand même à l'image de ce Dieu-là. Et il me semble que dans ce moment qui doit être un moment de prière, en tout cas de grand silence, Jésus entend quelque chose de ce Dieu-là, ou se rebranche, on va dire de manière familière, sur ce Dieu-là. Le Dieu qui est complètement un, qui nous appelle à lui ressembler, en étant un dans notre cœur, notre affectivité, tous les aspects de notre personne. Et il me semble que donc Jésus, là, se recentre ou est à la fois se recentrer et recentrer dans son unité. Et là, c'est là qu'il trouve la paix et la parole juste.
Pour cette femme qui a été amenée parce qu'elle avait été trouvée en flagrant délit d'adultère.
C'est ça. C'est une parole qui est ajustée, qui est vraiment une parole qui lui est inspirée d'en haut. Le texte est extrêmement précis là-dessus. C'est là qu'il trouve cette expérience de l'unité intérieure où la peur se dissout parce que il laisse Dieu, le Dieu un, l'habiter profondément.
Vous dites que c'est un roc, hein, cet être de Dieu, on peut s'appuyer sur le roc.
Parce que c'est un évangile, en particulier celui-là, on le trouve aussi dans les autres, mais dans l'évangile de Jean, on dit beaucoup, il y a beaucoup l'expression « moi je suis », qui est employée 7 fois sans prédicat, c'est-à-dire moi je suis le pain de vie, moi je suis le berger, moi je suis le cep, etc. Il y a beaucoup d'images, mais il y a à 7 reprises l'expression « moi je suis » dans la bouche de Jésus, qui, pour moi, va tout à fait avec cet épisode, c'est-à-dire que le « je suis » qui s'est révélé à Moïse, le Dieu qui disait « je suis qui je suis » ou « je serai qui je serai » à Moïse pour se présenter, ce Dieu-là habite Jésus au plus profond, et ça se traduit dans les paroles de Jésus par le « moi je suis ». Vraiment, c'est ce roc. Tout être humain peut faire cette expérience de rencontrer ce roc à l'intérieur de soi qui est indestructible. C'est-à-dire, ils peuvent me détruire dans mon corps, ils peuvent me blesser, m'humilier et me vraiment m'endommager, mais il y a tout au fond de moi un roc, quelque chose qui est indestructible, qui est de l'ordre de ce « moi je suis » divin qui habite tout être humain.
« Lita Bassé, au début de la semaine, nous avons vu que nous étions blessés, souvent même très jeunes, hein, dans l'enfance. Et de ce fait, eh bien, nous avons eu peur des autres, nous les jugeons. On peut s'appuyer sur cette parole « moi je suis » du Christ ?
Tout à fait. Et vous savez qu'il y a une tradition qui est très répandue chez les orthodoxes, qui est la prière du cœur, où on peut répéter une petite phrase qui peut quelquefois être très très courte, mais qui est comme une sorte, d'autres diraient que c'est comme une sorte de mantra, mais c'est quelque chose, en fait, cette prière du cœur qui apporte un apaisement incroyable. Et moi, je me dis que dans les périodes de grande tentation où, aliénés par la peur, nous risquons de déraper dans un esprit de jugement vraiment très destructeur, c'est tout à fait possible de répéter cette phrase moi je suis, en pensant que c'est une parole que le Christ disait et que probablement que lui, cette parole a beaucoup enraciné dans cette attitude d'humilité et de paix. Répéter au fond la prière du cœur, c'est de répéter cette phrase jusqu'à ce que ça s'apaise en nous. Moi je suis, moi je suis. Et je crois que ça vaut la peine d'essayer.
Mais ça veut dire que le Christ nous permet de nous réunifier, de nous unifier, de nous réparer, de réparer ce qui a été blessé.
Plus seulement qu'il nous permet, mais je veux dire, il le fait. Il dit bien que dans son nom, quand nous demandons quelque chose dans son nom, c'est là, c'est même déjà là. Quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est déjà là, et c'est de décider de laisser ça s'imposer du plus profond de nous, par la prière du cœur ou autre chose. Il fait lui-même cette unité en nous, par son esprit, disons de manière invisible aujourd'hui. Beaucoup de gens témoignent de ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais ce moi je suis est devenu quelque chose d'incroyablement vivant dans mon existence.
Alors dans votre livre, vous parlez aussi de Judas.
Oui.
Judas, le grand incompris, le grand condamné,
le grand coupable, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on peut dire en rapport au jugement, en rapport à ce que nous avons déjà dit sur le jugement concernant Judas ?
Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans ce passage, dans l'évangile de Jean en particulier, c'est le fait que Jésus ne condamne jamais Judas. Contrairement à beaucoup de chrétiens qui vraiment font de Judas un monstre.
Un bouc émissaire, pratiquement.
Complètement. Et Jésus, au contraire, si on regarde bien les textes, je ne vais pas dire que ça lui a été facile, du jour au lendemain, d'admettre que un de ses amis intimes, archi-intimes, le livre aux autorités et le fasse condamner. Je ne vais pas dire que c'était facile, mais d'ailleurs on voit dans les textes, dans l'évangile de Jean, qu'il y a eu tout un combat à l'intérieur de Jésus lui-même pour accepter que Judas allait déraper de cette manière-là. Vous voyez, il y a plusieurs fois l'expression, par exemple, à un moment donné il dit « il y a parmi vous un diable ». Un diabolos, hein, quelqu'un qui
divise.
Qui divise. Bon, là, on n'est pas très loin de déraper vers un enfermement dans l'être de Judas. Mais il y a une sorte de... On n'a pas le temps d'expliquer, de raconter tout ça, mais il y a des petites touches tout au long des relations entre Jésus et Judas, où on voit que Jésus est aux prises avec l'esprit de jugement.
Enfin, la
tentation de le juger, et on peut même percevoir la peur que lui inspire Judas à travers ces textes. Mais il faut prêter vraiment bien attention à ces passages.
Mais on peut dire que Judas, comme nous qui jugeons, est blessé, et c'est parce qu'il est blessé ?
Alors certainement, mais bon, là, nous n'avons pas d'indication dans les textes. Mais au fond, il y a aussi un autre mot, il y a un mot qui est appliqué à Judas dans les évangiles, c'est « malheureux Judas ». C'est un mot en grec qui est « poneros », qui peut vouloir dire aussi bien « malheureux » que « malfaisant ». Et je trouve très important qu'il y ait ce mot-là concernant Judas, parce que au fond, nous sommes tous les êtres humains, nous sommes à la fois des gens malheureux et des gens malfaisants. C'est indissociable, et c'est très difficile de dire jusqu'à 40% je suis malheureux et 60% malfaisant. C'est un mixte perpétuel, à la fois, nous voulons toujours choisir entre les deux. Nous voulons toujours dire, mais alors, il est coupable ou il est innocent? Et bon, il y a des choses, nous sommes complètement victimes, innocentes. On est d'accord. Mais le pourcentage de qu'est-ce qu'on en a fait de ce malheur-là, c'est très difficile d'établir. Et c'est ce que Jésus ne fait jamais. Judas, jusqu'à la dernière minute, il va être considéré comme quelqu'un à la fois, comme tous les humains, à la fois de malheureux et de malfaisant. Mais ce qui est très frappant, c'est la fin. C'est, au fond, sa dernière confrontation avec Judas avant l'arrestation, c'est le moment où il lui donne
la bouchée de pain.
La bouchée de pain. Et cette bouchée de pain, là, si on regarde les textes de très près, ça ressemble étonnamment à une communion.
Ça voudrait dire que Judas est le premier à bénéficier du pain de vie?
Exactement. C'est impressionnant parce que, donc il dit, la question qui a été posée à Jésus, c'est qui est le disciple qui va te trahir? Et Jésus ne le montre pas du doigt, donc il ne le condamne pas, il dit pas voilà le monstre, etc. Il dit, c'est celui avec à qui je donnerai la bouchée de pain. Jésus donne la bouchée de pain, qui dans l'Église primitive, le mot qui est utilisé, c'était psomion, vraiment, la bouchée du pain de la communion dans l'Église primitive. C'est ce mot-là qui est utilisé dans ce passage où Jésus donne cette bouchée d'abord à Judas, comme s'il était le premier à pouvoir bénéficier du pain de vie, du pain de la communion.
Comme si Jésus avait senti que finalement cet homme blessé, qui va bien sûr faire un acte irréparable, mais avait besoin, lui, en premier.
En premier, plus que tout autre, et lui donne ce pain-là, ce pain. Et après, Judas va mourir brutalement, probablement par suicide. Il y a deux versions. Dans un des évangiles, c'est carrément un suicide, et dans l'autre, il tombe, il s'éventre. Enfin bref. Donc là, on peut percevoir vraiment le malheur de Judas. Il y a des gens qui disent que Judas était quelqu'un de tellement proche de Jésus qu'il était tellement déçu que ça finisse comme ça par la crucifixion. Enfin, que ça finisse de manière lamentable, que du coup, il a fait cet acte-là. Mais entre parenthèses, c'était pas déterminant. En fait, tout dépendre de cet acte-là, mais c'était pas déterminant. C'est-à-dire qu'on l'aurait bien trouvé, Jésus. Tout le monde savait qu'il enseignait dans le temple. N'avait pas vraiment besoin de lui, quoi.
Lita Basset, merci. Nous terminerons demain cette série sur le jugement.